Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro. Oui, c'est la deuxième émission de la semaine. C'est mardi. Ça veut dire qu'on va démarrer cette émission avec Myriam Larache qui va nous parler des vieilles séries québécoises à succès qui intéressent les différentes plateformes. Voilà, la surprise, c'est ces vieilles séries québécoises. Je laisse Myriam vous les dévoiler. Et ça, c'est à partir de quand je vais finir de planter le décor. Et puis à 16h30, il y a Claire Oliver qui va nous... Elle est responsable d'inclusion et diversité chez Danse Danse. Elle va nous parler de la compagnie Office Chester Company qui sera en spectacle bientôt là, 2, 3, 4, 5 novembre à 20h au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. C'est très intéressant pour les amoureux de la danse ou bien ceux qui ne sont pas amoureux de la danse mais qui aimeraient bien découvrir de la belle chorégraphie. Voilà, oui, comme dirait l'autre, la danse, c'est la poésie du corps. Allez, Myriam, entends tout ce que je dis. Bonjour Myriam.
Bon après-midi, Fulgence, ça va bien?
Oui, oui.
Bon après-midi à tous nos auditeurs pour ce jeudi pluvieux.
Oui.
À lendemain d'Halloween, donc j'imagine que tout le monde est un peu léthargique.
Oui.
Alors.
Oui, oui. Alors,
allons commencer par ces vieilles séries québécoises donc convoitées par les plateformes, et je vous dis comment et pourquoi.
Oui.
Alors, d'abord, MIPCOM, c'est-à-dire, c'est le marché international des programmes de communication qui rassemble à chaque année, Fulgence, pendant 4 jours, et ça depuis une bonne décennie,
ah bon?
Vers la mi-octobre, oui, les professionnels de la télévision et des médias du monde entier à Cannes, la ville des Césars,
oui.
Donc en France. Et cette semaine incontournable pour l'industrie du divertissement accueille donc chaque automne les plus grandes sociétés de l'audiovisuel pour présenter les derniers contenus, signer des partenariats et comprendre les tendances télévisuelles dans les pays, entre 96 pays qui participent, je le pense.
96 donc, pays.
C'est énorme. Alors,
oui,
c'est un marché
beaucoup.
Incroyable. Mmh. Alors, l'édition 2022 est particulièrement intéressante pour le Québec, figure-toi. Les producteurs québécois, d'abord, y sont allés en grand nombre et la SODEC a dû se présenter cette année avec 40 entreprises du Québec sous son ombrelle. 40.
C'est pas vrai.
Oui. Alors, membre de la direction, Louise Lantane, qui est d'ailleurs, je pense, responsable du département francophone de Radio-Canada, elle est aussi membre de la direction de la SODEC, a indiqué que le Québec est en train de devenir très visible dans les autres pays, les gens s'y intéressent. Alors on constate un engouement envers notre province, comme il y a quelques années à ce qu'il paraît pour les pays scandinaves. Alors plusieurs séries québécoises ont donc bien brillé cette année-là, cette semaine-là à Cannes, et pas seulement les plus récentes, parce qu'on a acheté Audrey est revenue. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de tout ça au début d'année où elle a gagné des prix en Corée, elle a gagné des prix en Allemagne.
Oui.
Alors on s'intéresse à ces nouvelles séries, mais les anciennes aussi, c'est ça qui est surprenant. Et Amazon Prime Video s'est emparé de deux grosses séries Fulgence. Marguerite Volant, cette mini-série historique de Radio-Canada diffusée en 1996, c'était même pas encore là, mettant en vedette Catherine Sénard et qui brosse le portrait d'une intrépide jeune femme en Nouvelle-France. Et elle a aussi acheté Nos étés. Alors, ce drame d'époque des auteurs de Anne Boyer et Michel Dastou, des grands d'ici chez nous qui produisent des séries, de TVA qui a été, elle, diffusée à partir de 2005.
J'espère, donc, Myriam, j'espère que les réalisateurs oui. Et les comédiens sont tous en vie, qui vont savoir que voilà, cette œuvre des années 96 se retrouve sur les plateformes.
Et qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, les vedettes sont aujourd'hui des vedettes de notre petit écran. Hein. Ils sont toujours là, ces acteurs-là.
Ah, bon, d'accord.
Alors, je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, ces ventes de séries surviennent, tiens, comme par hasard, après l'atterrissage sur Netflix, devine donc de quoi Les Filles de Caleb. Alors, je sais que toi, ça te dit peut-être rien, Fulgence, mais il n'y a pas un Québécois en 2021, qui a au moins plus que 20, qui a la trentaine à peu près et plus, qui ne connaît pas Les Filles de Caleb.
Mmh.
C'est une série donc anthologique ici au Québec, qui fait partie de la culture populaire. Les gens ont suivi ça avec Roy Dupuis et Marina Orsini. Ben, elle a atterri sur Netflix, et je vous en parlerai en conclusion, parce qu'il y a eu une petite controverse. Et aussi Trauma 2010 qui a atterri sur Netflix. Alors Netflix a commencé à acheter ces séries, ça a comme fait Boule de Neige, Amazon Prime s'y intéresse. Et à ces séries du Québec, et c'est pour ça que je m'arrête aujourd'hui sur Marguerite Volant et Nos étés.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que Marguerite Volant? Alors, c'est une mini-série historique que j'ai vue en passant, hein, parce que moi, je suis arrivée ici en 1995. Alors, mini-série historique de 11 épisodes sur Radio-Canada. Marguerite Volant a été créée par Jacques Jacob et Monique Messier, réalisé quand même par Charles Binamé, hein, un grand du cinéma, avec un casting de grandes vedettes comme Véronique Leflaguet, Pierre Curzi, Angèle Coutu, Pascal Bussière, entre autres. Alors, c'est une série qui a été récompensée pour 2 prix, le FIPA d'argent 97 pour la meilleure série dramatique. Elle a reçu 3 prix Gémeaux aussi, meilleure direction photo, meilleur son d'ensemble, meilleur décor, meilleure création de costumes, et j'en finis pas. Alors, l'histoire, c'est quoi? Allez, on est en 1763, donc au terme d'une longue lutte, le roi Louis XV abandonne la Nouvelle-France aux mains des Britanniques en signant le traité de Paris. Marguerite Volant, 20 ans à peine, fille du seigneur Claude Volant, voit sa vie bouleversée par ce changement de régime. Condamnée à l'exil, à la suite d'une tentative de meurtre, elle réussira à s'évader grâce au capitaine anglais James Chase, qui lui voue un amour secret. Voilà le synopsis. C'est intéressant, c'est un film d'époque, donc qui nous ramène à l'histoire de France, avec la Nouvelle-France ici, avec les Britanniques. Donc, c'est intéressant du point de vue historique. Traditionnel roman donc d'époque, cette série remonte au cours du temps pour nous faire découvrir les splendeurs et la misère de la noblesse canadienne du XVIIIe siècle. C'est intéressant, on ne fait plus beaucoup de séries comme ça, Fulgence, parce que ça demande énormément de budget.
Parce que oui, énormément de budget. Oui. Non seulement ça, mais les époques ont changé aussi.
Les époques ont changé. Mm-hmm. Et donc, ce tournage s'est fait en passant en Mauricie, à Saint-Paulin, dans un décor déjà naturel, magnifique, qui s'y prête pour souligner l'époque. Alors, c'est ça, Marguerite Volant, ça intéresse, ça nous remet ça en avant, à souligner que l'actrice principale, Catherine Sénard, est mitigée par rapport à cette série qui a eu un grand succès. Elle avoue sans flafla, et je vous le dis, ça c'est le blabla hollywoodien, « Je ne pouvais pas passer à côté d'une expérience comme celle-là, mais il y a un prix à payer à ça et je l'ai payé. » Elle ironise en riant, « C'est vrai que ma vie n'a plus jamais été la même, mais pas dans le sens prédit. » Selon elle, elle était une actrice très demandée avant cette série-là, et ayant été obligée, parce que c'est des tournages très longs qui prennent tout l'été, au fait. Hein.
Oh, wow.
Obligée, oui, elle commençait au mois de mai, juin, puis ça partait jusqu'en septembre, jusqu'au moment où il fait encore beau pour tourner. Et donc, obligée de briser des contrats pour Marguerite Volant.
Pour la série.
Oui, pour la série. Alors, c'est certain que les gens concernés, elle a dit, ils ne m'ont plus réengagée après. Elle a traversé une période apparemment difficile après la fin de cette série-là, avec peu de propositions de travail. Et elle précise, pour finir, « J'ai fait de belles rencontres, j'ai eu de beaux contrats par la suite, mais c'était un autre mode, beaucoup plus au ralenti, en montagne russe, pour avoir fait cette série. » Voilà.
C'est le milieu artistique, c'est le milieu, voilà, c'est la vie,
oui,
de beaucoup de comédiens d'ailleurs.
Exact. Alors maintenant, je vais vous parler de Nos étés, que j'ai vu aussi. Quand je suis arrivée, j'étais là en 2005. T'étais là en 2005, Fulgence?
Oui, j'étais là, mais je ne connaissais pas les séries québécoises.
C'était pas encore imprégné dans
non,
la société.
Non.
Alors, ça, j'ai beaucoup aimé celle-là, hein, moi, Nos étés. Alors, c'est une série de 4 saisons avec 29 épisodes, créée par Anne Boyer et Michel Dastou, diffusée le 25 mars 2005, le premier épisode, et ça va continuer sur le réseau TVA jusqu'en 2008. Alors, le tournage s'est passé dans différents lieux qui sont magnifiques, entre autres au bord du magnifique fleuve Saint-Laurent à Kamouraska, où je suis allée aussi. Alors, une incroyable palette d'acteurs, je ne vous dis pas Sophie Préjean, Jean-François Pichette, Marie-Chantal Perron, Louise Portal, Julie Le Breton, Fanny Mallette, Patrick Labbé. Je pense, Fulgence, quand je suis allée voir le casting des 4 saisons, on ne faisait pas attention peut-être à l'époque, mais tous les acteurs québécois sont passés par Nos étés. Écoute, il faut le dire là.
Ah bon?
Tous les acteurs qu'on voit aujourd'hui là, ils sont passés
Ils sont passés dans cette série-là, Nos étés, oui.
C'est incroyable.
Mmh. Tout le monde était réuni là, quoi.
Voilà, alors l'histoire commence donc, je vous la raconte, entre 1900 et 1915. C'est aussi une histoire un peu d'époque, du temps de, donc, du début du siècle. C'est une puissante saga qui nous fait découvrir cette époque à travers le destin passionnant et intimement lié de la famille Desrochers, des riches commerçants montréalais, et les belles îles de modestes fermiers de Kakuna en bordure du fleuve Saint-Laurent, dont les destins seront étroitement liés. Alors tout s'articule au fait pendant les vacances estivales de cette riche famille qui vient passer donc son été à Cap-sur-Mer. Des personnages plus grands que nature, faut le dire, à la mesure des paysages grandioses de Kamouraska. C'est très bien rendu, faut le dire. Alors, c'est une série qui a été récompensée. Gala Artiste en 2005, meilleure actrice de soutien pour Marie-Chantal Perron et près d'une trentaine de nominations au prix Gémeaux. Alors, okay. Écoutez, à re-regarder Prime Amazon si vous l'avez. Et sachez que quand même, Radio-Canada continue de diffuser, je pense, Marguerite Volant à ici tout.tv, il me semble, mais je ne suis pas sûre.
Ah bon?
Mais, oui, pour le début. Par contre, Je vais finir avec les filles de Caleb, que j'ai présenté au début en disant qu'elle a été intéressée. C'est Netflix qui la présente.
Oui.
A créé une petite controverse, Fulgence.
Quelle est cette controverse?
Voilà, au début de septembre, donc, Netflix a acheté les filles de Caleb, cette série d'anthologie, hein, pour ici. Ça imprègne la télévision. Tout le monde évoque à un moment donné les filles de Caleb avec Roy Dupuis et Marina Orsini. Alors, peu de temps après avoir acquis les droits de diffusion de la célèbre série québécoise, les filles de Caleb, Netflix a décidé de retirer l'épisode 2 en raison d'un blackface. Ceci a provoqué toute une polémique. Je ne sais pas si tu as suivi ça, moi.
Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui.
Voilà.
C'est tout nouveau, là, ouais.
Oui, parce que Netflix l'a présentée, je pense, début septembre à peu près, la série. Oui. Elle a dit qu'elle était là. Donc, beaucoup réagir les internautes, l'acteur en question, les journalistes, donc, et Roy Dupuis qui interprétait le rôle, donc, d'Ovila, déguisé en roi mage Balthazar pour une scène de la nativité dans l'histoire. Alors, plusieurs internautes crient à la cancel culture, d'autres affirment qu'ils annulent leur abonnement à Netflix, jusque-là, hein. La plateforme américaine a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux et même dans les médias québécois, dans la presse, dans Le Devoir, tout le monde en a parlé. Alors, en entrevue avec la presse, l'acteur principal qui s'est déguisé, qui s'est fait un blackface, a commenté « C'est un peu exagéré, la série se passe à Saint-Tite au 19e siècle. Il n'y avait pas de noir à cette époque-là pour faire, réorganiser la nativité pendant Noël. C'est ça qu'ils font, au fait. Les habitants du village ont décidé de... » Alors, il a dit « On ne pouvait pas avoir un Africain ou un noir sur l'époque, qui représente l'époque. C'est ce qu'on a fait, c'est une erreur de vouloir effacer l'histoire. Je comprends que ça puisse offusquer des gens, mais il y a des limites. » Alors, la série Les Filles de Caleb est aussi disponible sur ici.tv extra. Et regarde bien, la plateforme de Radio-Canada a choisi de conserver l'épisode en question, mais d'ajouter le message suivant. Ce programme est proposé tel qu'il a été originellement créé et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes de celles d'aujourd'hui. Alors, c'était la controverse pour cette série.
Oui, de toutes les façons. Bon, c'est ça qui a poussé certaines personnes aux abonnés de se désabonner, de toutes les façons. Mais tout ça, ces grosses boîtes-là, bon, que tu te désabonnes ou pas, elles vont toujours continuer à fonctionner.
Exact.
Oui,
ils l'ont retiré, Netflix. Eux, ils ont décidé de retirer cet épisode. Tu ne peux pas le voir sur Netflix. Si tu veux le voir, il faut que tu ailles sur Radio-Canada, ici.tv pour le voir.
Oui, je peux les comprendre parce qu'ils vont se faire poursuivre.
Oui,
quelque
probablement.
Part. Oui, ça c'est clair. Ouais. Alors, on dit quand on a été mordu par le serpent, quand on voit le ver de terre, on se met les pieds au cou, quoi.
Oh, je ne connaissais pas cette expression. Est-ce que c'est une expression africaine?
Oui.
Répète-la moi, s'il te plaît.
Quand on a été mordu par un serpent, à la vue d'un ver de terre, on se met les pieds au cou.
Ok. Je vais la retenir. On va conclure sur ça, Fulgence. Alors, c'est ça. Nos séries intéressent, c'est fantastique. Il faut juste faire attention à un peu quelques séries qui vont peut-être devoir... parce que c'est vrai, hein, quand on revient à l'arrière, nous regardons juste que La Petite Vie. Mmh. La Petite Vie, Radio-Canada aussi a décidé d'écrire en dessous des choses sur que la culture d'avant, des années 80, c'est pas celle d'aujourd'hui, qu'il y a des choses qui se disaient à l'époque qui ne se disent plus. Alors, donc, il faut s'attendre à voir... des épisodes peut-être effacés ou des moments effacés.
Oui, c'est clair. Bah, moi, ça me fait penser à cette histoire.
Ça me fait
penser à cette histoire de N-Word à l'université de...
Exact, c'est la même. Oui. Ça rentre un peu dans...
Voilà, il y a des profs qui ont perdu leur emploi ici au Québec avec des mots désespérés comme ça dans leur classe...
C'est un grand débat très délicat.
Très délicat, voilà. Bon, ce que je dis pour celui qui n'a jamais vécu dans la peau des Noirs aussi. Il ne sait pas quelle est la souffrance qui a été endurée par... l'ancienne génération, la génération actuelle. Et puis, c'est comme cette histoire de profilage dont j'en parlais en début de semaine, concernant le jeune homme là de 22 ans qui a porté plainte. Mm-hmm. Et puis bon, cette histoire de profilage des jeunes au volant des voitures et puis on les arrête parce qu'ils sont noirs. Voilà, bon, tout ça, c'est la Cour supérieure a donné raison au jeune homme.
Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire n'importe quoi et de faire très attention à tout le monde.
C'est ça, et de faire n'importe quoi aussi. Voilà.
Voilà.
Alors,
tu as
fini?
Eh oui.
Ok, d'accord.
J'ai même dépassé mon temps.
Non, je croyais qu'il y avait une autre série. Je croyais qu'il y avait une autre série encore. Allez, merci beaucoup, Myriam.
Je vous dis à jeudi.
À jeudi pour le sport.
Allez, bonne fin d'émission.
Merci. Bonne soirée à toi, Myriam.
Bye.
Bye.
There are times when I look above and beyond.
Janet Jackson, Together Again, Deeper Remix. Voilà, je vais parler un peu de gaz à effet de serre. Il y a nouvelle, c'était dans le courant du mois, le mois passé, octobre, là, la Nouvelle-Zélande, qui veut taxer les pets des vaches, dévoiler un projet de taxe, de taxer les émissions de gaz à effet de serre des animaux d'élevage. Allez-y comprendre. Bon, là, ça va très loin. Alors, donc... ça date du Science Avenir qui nous fait parler, AFP aussi, Agence France Presse. C'est un projet de taxer les émissions de gaz à effet de serre des animaux d'élevage dans le cadre d'une proposition controversée visant à lutter contre le changement climatique. Voilà, donc la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern qui a déclaré que cette taxe serait la première de ce type au monde. Ah oui, effectivement, je n'ai jamais entendu parler de ça, qu'on va taxer les pets des vaches. Voilà, oh, sincèrement. Le gaz naturellement émis par les 6,2 millions de vaches néo-zélandaises figure parmi les plus gros problèmes environnementaux du pays, a-t-elle déclaré. 6,2 millions de vaches. Voilà. Ça fait rire, mais c'est sérieux. C'est sérieux pour la Nouvelle-Zélande. C'est un pays... Ouais. Le programme prévoit que les agriculteurs payent pour les émissions de gaz de leurs animaux, comme le méthane contenu dans les pets et les rôtes des vaches. et le protoxyde d'azote contenu dans l'urine du bétail. Oui, ça va jusque-là, ils vont plus. Il ne va falloir que les propriétaires disent à leurs animaux de ne plus uriner ou bien d'avoir des... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben, je comprends. Mais ça va un peu loin, non? Ouais, chacun fait son petit geste, quoi. Voilà, en gros, on en a parlé ici. On en parle souvent ici de cette histoire de JS. Voilà. Donc, elle a déclaré aux agriculteurs qu'ils devraient être en mesure de récupérer leur argent en augmentant les prix de leurs produits respectueux du climat. Ouais, c'est, effectivement, c'est ça. Qui paye? C'est nous, les consommateurs. C'est les consommateurs néo-zélandais qui vont payer. Parce que l'agriculteur doit augmenter le prix de sa viande, donc c'est le consommateur qui va payer les taxes. Effectivement, c'est pas l'agriculteur lui-même. Alors, elle appelle sa proposition réaliste. Elle a déclaré que cette proposition réaliste réduirait les émissions agricoles tout en rendant les produits les plus respectueux de l'environnement, renforçant ainsi la marque d'exportation de la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement espère aussi aboutir à une signature de son projet d'ici la fin à l'année prochaine. Et la taxe pourrait être introduite dans 3 ans. Donc, les gens ont tout le temps de remanier leur manière de faire de l'agriculture là-bas en Nouvelle-Zélande. dire aux animaux de l'élevage, allez, moins d'urine, moins de bêtes. Tu me rajoutes quelque chose, Mathieu?
Ce que je trouve étrange, c'est qu'après ça, on va vouloir exporter ce produit-là dans le monde entier.
Oui.
Donc, le prix environnemental de l'exportation, je pense que les pauvres vaches se seront retenues pour rien.
C'est ça.
C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
Ah, Mathieu, elles vont se retenir. Même pour aller aux toilettes, c'est pas possible. Tu t'imagines. Alors, donc, le gouvernement espère aboutir à cette signature-là, ouais, à l'année prochaine. Et la taxe pourrait être introduite dans 3 ans. Mais avec les élections prévues d'ailleurs dans 15 mois là-bas, c'est maintenant 14 mois. En Nouvelle-Zélande, ce projet pourrait coûter à Mme Ardern des bulletins de vote ruraux. Ça, c'est clair. Si moi, j'étais agriculteur là-bas, tu penses que je vais voter pour elle? Non, non, non. Moi, je dois payer des taxes parce que mes vaches vont aux toilettes. Attendez, voilà. Allez, soyons. Donc, c'est ça. Elle va perdre des voix ça, en région. Ça, c'est clair. Les agriculteurs ont rapidement condamné le projet. Et celui qui est le président du lobby Federated Farmer, Andrew Hoger, a déclaré que ce projet arracherait les tripes des petites villes de Nouvelle-Zélande. Ah, je peux le comprendre. C'est des choses qui, quelquefois, les agriculteurs se disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous, les politiciens, au lieu de chercher beaucoup plus dans la poche, dans les caisses des grandes entreprises, dans les grandes villes, c'est nous, là, petits paysans, agriculteurs, c'est nous qui viennent encore embêter, je sais pas. Donc la taxe pourrait, selon lui, inciter les agriculteurs à faire pousser des arbres sur des champs actuellement utilisés pour l'élevage. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Donc, l'organisation Beef Lamb New Zealand, qui représente les éleveurs d'ovins et de bovins du pays, estime de son côté que le projet ne tient pas compte des mesures rurales déjà en place pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et je les comprends, moi, quelque part. Donc, ces agriculteurs néo-zélandais possèdent plus de 1,4 million d'hectares de forêts primitives et sur leurs terres qui absorbent le carbone, a souligné son président Andrew Morrison. En gros, c'est ça, cette histoire. Ouais, c'est un peu triste, mais c'est une réalité. Je pense bien que les gens vont essayer de comprendre un peu. Ne pas aller saboter les lieux où ces animaux vont se nourrir, essayer de dire bon, les paysans sont la base de l'augmentation du gaz à effet de serre. Non, c'est pas possible, quoi. Voilà, ça c'est, je tenais à informer nos auditeurs. Et puis il y a un autre article de Science à venir aussi, la recherche, c'est tout nouveau là, en novembre 2022, de grandes quantités d'eau sont présentes jusque dans les profondeurs de la planète. Qu'est-ce qui vient confirmer l'étude d'un diamant comprenant plusieurs inclusions bleutées? Waouh! 23 000 bars et 1650 degrés Celsius. Provenant de la mine Karowe au Botswana, cette pierre cristallisée à 660 km de profondeur a piégé dans sa structure des minéraux denses telles que les wassilites et la ringwoodite qui se forment à des pressions et des températures régnant entre 400 et 660 km de profondeur. Voilà, soit jusqu'à 23 000 bars et 1650 degrés Celsius. C'est une zone de transition capable d'absorber d'énormes quantités d'eau. On ne savait pas. Ce diamant d'origine sous-profonde, ils appellent ça d'origine sous-profonde, provient ici du bas de la zone de la transition qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur. Oui, une région où la ringwoodite domine et la wasleyite et la étant capable de stocker de telles quantités d'eau, la zone de transition pourrait théoriquement absorber 6 fois la teneur de nos océans sous forme de roches hydratées. 6 fois la teneur de nos océans sous forme de roches hydratées. Alors, Mathieu, il va falloir qu'on fasse des plongeons là-bas à 660 km pour aller chercher du diamant, non? Tu veux pas plonger avec moi, quoi, ouais?
Non.
Non. Non, non, moi, c'est le côté eau, là, qui m'intéresse, quoi. Ça dit qu'il y a assez d'eau là-bas à cette distance. Ouais. Et 6 fois la teneur de nos océans sous forme de roches hydratées, c'est intéressant quand même. Je pense qu'ils ne vont pas faire des plongeons là-bas tout le temps à cause du diamant, mais pour essayer de préserver ces eaux qui sont en dessous là-bas à 660 kilomètres. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Je vous reviens avec mon invité Claire Oliver, qui est responsable inclusion et diversité chez Dance Dance, pour nous parler de la compagnie. Voilà, au Fesh. Chester, compagnie qui sera bientôt au Théâtre Maisonneuve. Voilà, restez à l'écoute après la petite pause. Je vous reviens avec mon invité.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie et dernière partie de l'émission. Mon invité est déjà prête au bout du fil, Claire Oliver, qui est responsable inclusion et diversité chez Danse Danse. Il va nous parler de ce spectacle de la compagnie Au Fesh Chester Company, qui commence d'ailleurs le 2, ça veut dire quoi, demain? Le 2, le 3,
oui,
le 4,
exactement.
Le 5.
Exactement.
Alors, bonjour Claire Oliver.
Bonjour, ça va bien?
Oui, je vais bien, merci. J'espère de même pour vous.
Oui, très bien, merci de m'accueillir.
Voilà. Alors, comment ça se passe? Le groupe, je pense que tous les comédiens sont déjà là, tous les chorégraphes sont déjà là, tout le monde est déjà là parce que ça commence demain. Et vous connaissez?
Oui, oui. En fait, les interprètes sont arrivés hier. Si je ne me trompe pas, et un petit peu plus tard, là, en début de soirée, je vais aller chercher le chorégraphe au Fesh Chester à l'aéroport qui arrive tantôt.
Oui.
Oui, et demain ça commence, donc mercredi jusqu'à samedi, tous les soirs à 20h au 4 Maisonneuve, donc Double Murder, sa dernière création.
Oui. Oui. Comment vous avez fait la connaissance de Chester?
Moi, je l'ai découvert grâce à Danse Danse. En fait, Danse Danse existe depuis 25 ans. Là, cette année, c'est le 25e anniversaire. Donc, on a une programmation vraiment de grande envergure. Et puis, au Fesh Chester, c'est un habitué de Danse Danse. Donc, il est invité tout naturellement à cette 25e saison. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec Danse Danse.
Oui.
Et, c'est quand même la 5e fois qu'il vient dans le cadre de la programmation Danse Danse. Donc, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises.
Oui.
C'est un chorégraphe qui a fait commencer à faire parler de lui au début des années 2000.
Oui.
Et j'ai été un petit peu plus proche. J'ai eu un petit moment particulier, je peux dire, que j'ai partagé avec lui parce que en tant que responsable de la médiation culturelle depuis un petit bout de temps chez Danse Danse, je monte des projets, puis il y avait un projet où on allait voir le spectacle, ses grandes finales à l'époque, en 2016, je crois.
Oui.
Et donc, on voulait faire un atelier, on avait un groupe d'adolescents On voulait faire un atelier avec un interprète de la compagnie ou une interprète. Et puis, finalement, tout le monde était pris parce que c'est une compagnie très généreuse qui donne des ateliers aussi au milieu professionnel quand il passe par Montréal. Et c'est finalement Ophèche Lecter qui a tenu à faire l'atelier lui-même. Alors, on était vraiment aux anges et on a passé un moment très spécial. Ouais.
Oui, j'étais surpris même de voir ça. L'atelier aura lieu le 5 novembre sur la scène du théâtre de Maisonneuve. Je me suis dit, depuis quand un chorégraphe invité fait des ateliers? Je sais qu'il répond aux questions, il rencontre le public après le spectacle, mais des ateliers, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai dit, mais comment vous avez pu le convaincre?
Alors là, c'est sa répétitrice qui va donner l'atelier. L'atelier, d'ailleurs, je vous le dis, est déjà complet.
Wow.
Malheureusement, oui. Mais c'est un petit comité. Hein. C'est à peu près une trentaine de participants. Donc, ça se remplit quand même assez vite.
Oui.
Ça fait plusieurs saisons qu'on organise ça. Donc, c'est toujours les samedis. À la fin de la semaine de représentation, c'est sur la scène du théâtre où ont lieu les spectacles. Donc, c'est vraiment particulier de participer à ces ateliers-là. C'est ouvert à tous. Aucun niveau est requis. On veut justement que tout le monde puisse avoir accès à cette expérience du mouvement. Et puis, on ne le fait pas avec toutes les compagnies de la saison, mais on en fait avec une partie et c'est toujours très, très apprécié. Ouais.
Oui. Et cette pièce-là, moi, le titre de la pièce de cette Double Murder, le double meurtre, non?
Oui, oui.
J'ai vu ça, j'ai dit, oh, on va pas pour mourir là-bas dans la salle. On va pour avoir du plaisir là. Ils vont pas mourir sur la scène, les interprètes et le chorégraphe.
Oui, oui. C'est une chance. En fait, c'est un titre choc.
Oui, c'est très choc. Oui, oui.
Mmh. Ouais, mais le ce qui est traité dans c'est deux pièces. Hein, la soirée, c'est un doublé, donc il y a Clowns en première partie, suivi de Fix.
De Fix, oui.
Et dans Clowns, oui. Alors, de toute façon, une expérience avec la compagnie Ophèche Lecter, c'est une expérience qui est marquante. En général, c'est très puissant. On s'en souvient.
Oui.
Et dans Clowns, oui, effectivement, c'est une mise en scène de la violence. Il y a un côté assez théâtral. C'est un mélange, pour Ophèche Lecter, toujours sa gestuelle très particulière. C'est un mélange de danse contemporaine, danse folklorique du Moyen-Orient et théâtralité parfois dans Clowns, oui. Donc, on a ces visions de violence très explicites. Mmh. Donc, par contre, qui sont en fait mises en scène sous un angle parfois presque cocasse.
Oui.
C'est pas pour rien que ça s'appelle Clowns, en fait. Mais c'est dérangeant. Ça vient nous questionner. Ah, comment on reçoit ça? Des images très violentes, très, très explicites, mais parfois dans une mise en scène qui rappelle, on a l'impression d'être au cirque avec ces lumières, cette espèce de parfois une musique entraînante. Donc, ça nous interpelle. C'est pas un spectacle qui laisse indifférent. Là. La deuxième partie de Fix, c'est vraiment un peu comme un antidote à cette violence-là qu'on nous expose en première partie. Là, on est beaucoup plus dans... c'est un groupe... sont 10 danseurs sur scène. Hein,
c'est ce que j'ai vu dans les documents que j'ai reçus. 10 interprètes, 10 danseurs, oui. Mmh.
C'est ça, avec des grands ensembles. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. On est dans une solidarité, un sentiment de communauté. C'est très émouvant, cette deuxième partie. Avec Ophèche Lecter, on est souvent dans des contrastes très forts.
Oui.
Mais oui, alors, est-ce qu'on va rire? Est-ce qu'on va pleurer? Peut-être un peu les deux? Je peux pas vous le dire.
Alors, les âmes sensibles qui nous écoutent. Non, je parle pas de Fix, je parle de Clowns. Parce que Fix, ça parle d'humanité. Voilà, c'est beaucoup plus, comme vous l'avez dit, une pièce humaine en antidote, quoi. Voilà. Voilà,
complètement.
Ouais.
Mais il nous accompagne là-dedans. On n'est pas pris à mal en tant que spectateur. Hein. On est des spectateurs qui sommes touchés par ce travail, mais c'est une belle expérience vraiment d'aller voir.
À vivre, les absents auront. Et puis tout ça, c'est porté par sa propre musique à lui, hein, pas la musique de Schechter. Expliquez-nous un peu, vous voyez.
Exactement. En fait, il a une formation de percussionniste et de danseur.
Oui, c'est ce que j'ai vu dans sa description, dans sa bio, là. J'ai dit, Ah, ok, il n'est pas seulement danseur, il a étudié la danse et les percussions, il fait partie de la célèbre Betseva Dance Company aussi. Et il est établi à Londres depuis 2002. Oui, oui.
Alors, pour ça, c'est ça, pour un petit peu retracer son parcours. Il a fait partie de la Batseva Dance Company, puis ensuite, il a monté sa propre compagnie, donc la Fresh Sector Company, basée à Londres maintenant.
Oui.
Il a toujours composé la partie musicale, toujours, enfin, je pense toujours, dans toutes les pièces que moi j'ai vues, la partie musicale de ses œuvres chorégraphiques. C'est quand même particulier, c'est quand même rare qu'il y ait plusieurs chapeaux justement artistiques multidisciplinaires pour un chorégraphe. C'est déjà beaucoup d'être chorégraphe. Et je trouve que ça se sent beaucoup dans son travail. La musique est extrêmement puissante et En tout cas, on a une expérience aussi musicale très forte quand on va voir un de ces spectacles.
Oui.
Et c'est rare, je tiens à souligner, en fait, parce que c'est quand même rare d'avoir ces deux aspects-là chez un chorégraphe, l'expérience musicale et l'expérience chorégraphique. Puis juste, parce qu'on a une chorégraphe montréalaise, Virginie Brunel, qu'on présente bientôt, et elle aussi vient du domaine de la musique, et ça fait des pièces, en fait, très fortes au niveau de la relation entre la musicalité et la gestuelle, c'est vraiment intéressant. Mmh. Et dans le cas d'Ophèche Spectre, oui. Donc, il a composé cette musique que vous allez entendre si vous venez voir le spectacle, comme à son habitude.
Ouais. Et puis, il est reconnu comme l'un des artistes les plus passionnants de la scène actuelle. Et il a été aux commandes de grandes institutions comme le Cedar Lake Contemporary Ballet de New York et puis le Royal Ballet de Londres. Mais c'est pas tout le monde qui passe là, hein?
Effectivement, oui. Non, effectivement, il a une feuille de route très impressionnante. Moi, je pourrais même pas vous dire tous les endroits où il est passé, mais la BBC aussi a fait une adaptation cinématographique de Clowns. Je sais qu'il avait chorégraphié aussi pour la télé. Donc, il est très en demande. Ce que je trouve très bien aussi très intéressant avec Ophèche Spectre, c'est que il rallie autant les néophytes que les adeptes de danse contemporaine. Et ça aussi, c'est pas toujours le cas. Il a ce côté très, très populaire, en fait. Il est très demandé, il est très en vue.
Oui,
c'est quelqu'un, c'est vraiment ce spectacle. Moi, je les conseille à des amis, à mon entourage, que pour une première expérience en danse contemporaine. Et en général, ça fonctionne. Ouais, il est populaire, mais vraiment dans le sens qu'il rallie vraiment les spectateurs, les spectatrices autour de son travail. Il est très apprécié, largement.
Oui, oui, oui. Alors, je pense bien que ceux qui vont se déplacer ne vont pas le regretter. En tout cas, ça permet quand même. Je me suis dit, c'est pourquoi j'ai demandé comment est-ce que vous avez pu mettre la main sur lui. Voilà, alors que c'est un habitué de Danse Montréal. Voilà.
Oui, je me permets de dire ça puisque c'est la cinquième fois qu'il vient, mais oui.
J'ai pas encore eu la chance de le voir, j'aimerais bien le dire. J'ai vu quelques vidéos de lui sur YouTube quand je savais qu'on le recevait. Je me suis dit, il faut aller voir un peu son parcours. Je dis, waouh, mais il est impressionnant ce monsieur. Voilà. Mais... Mm-hmm. Alors, et c'est vous qui allez le chercher à l'aéroport en plus.
Oui, c'est la première fois que je vais faire ça, mais oui, c'est ça. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Je lui dirai que vous appréciez beaucoup son travail.
Oui. Ah non, c'est, il m'impressionne. Son parcours m'a impressionné. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu comme vidéo là, de lui, je me suis dit, ouh, j'ai raté quelque chose dans ma vie. Hein.
Est-ce que vous venez voir le spectacle?
J'ai même pas demandé de billets de faveur.
On en parlera plus tard.
D'accord. J'ai même pas demandé de billets de faveur.
C'est juste que, effectivement, moi, parce que je pense à cette période qu'on a passée où j'ai visionné. Moi, je l'ai pas vu en live, son spectacle. J'ai bien hâte cette semaine. Mm-hmm. Je l'ai vu seulement en captation, une très, très bonne captation. Mais j'ai très hâte de voir l'énergie sur scène. Et puis, je vous en dirai pas plus. Mais c'est aussi des interprètes qui dégagent beaucoup d'énergie. On se sent pris vraiment dans le spectacle.
Oui, et puis, il est encore jeune en plus. Il est né en 74, c'est pas... Ouais, c'est la force même qu'il a encore là. C'est comme la dernière fois quand j'ai vu Louis le Cavalier en Gaspésie, au-delà de 60 ans. Je vis là. J'ai dit, mais les chorégraphes là, ils vieillissent pas. Hein. Quelque...
Quelque soit oui, l'âge. Louis le Cavalier, l'interprète. Oui. Ouais. Au spectacle, je ne l'ai jamais vu danser, mais chorégraphier, oui, je l'ai vu danser dans un atelier.
Oh, ouais, non, c'était son nouveau, c'est un tout nouveau spectacle solo là qu'elle a. Elle était en résidence en Allemagne, donc c'est ce spectacle solo qu'elle présente actuellement au Québec. Il y avait un festival durant l'été en Gaspésie. J'étais de passage là-bas. C'est comme ça que j'ai pu voir ce spectacle solo de lui. J'ai dit, mais à son âge, voilà ce qu'elle fait. Moi, je peux même pas faire ses mouvements.
Oui, elle est impressionnante.
Très impressionnante. Ouais. C'est le cas de Chechtek. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, oh, ça, c'est une autre catégorie, ça. Alors, ouais. Parlez-nous un peu de la nouvelle programmation de ces dizaines d'années de danse, en gros, en général.
Oui, ben, c'est la 25e saison, donc, depuis 1998. Et pour cette 25e saison, qu'on a commencé en octobre, hein, déjà, avec la Fondation Pina Borsch et l'École des Sables qui venait d'Afrique du Sud.
Là, j'étais allé voir ça. J'étais là.
Alors voilà, c'était le coup d'envoi de notre 25e saison. Ça a été mémorable. Mais là, donc, on poursuit. On a au Fest Spectre cette semaine. La semaine prochaine, on a chez Keblat. Je pourrais vous parler de tous les spectacles. Mais,
oui, on a du temps. On a encore quelques minutes. Allez-y. Je vous laisse.
Alors, je peux faire suite à ce que je disais tantôt. Virginie Brunel, chorégraphe montréalaise, fascinante, qui elle aussi a un parcours en fait musical.
Oui.
Elle, instrument à cordes, elle présente sa dernière création du 30 novembre au 3 décembre au Théâtre Maisonneuve. Donc, au Théâtre Maisonneuve, on est dans une grande salle, hein, vous savez, c'est 1400 places, c'est gros.
Oui.
Et puis, elle va être donc sur ce grand plateau-là, on a bien hâte de la voir. On a Marie Chouinard aussi, la compagnie Marie Chouinard, que vous connaissez sûrement.
Je l'ai déjà vu aussi sur scène. Oui,
au 4 février. Je veux juste rappeler la compagnie Pina Borsch, là, on l'a pas reçue souvent, mais la compagnie, donc le Tanzteater du Portal,
oui.
Ils viennent du 22 au 25 février avec Palermo, la pièce très célèbre qui a été donc chorégraphiée par Pina Borsch.
Oui.
Ils vont être à la salle Wilfried Pelletier. Ça aussi, c'est un spectacle marquant de notre 25e saison. Et puis, on a Stéphanie Lay Compagnie en mars. On a deux compagnies encore montréalaises, Tentacle Tribe et Rubber Band, qu'on accueillera en mars et en avril, qui sont, on peut dire aussi des habitués d'ambiance. On les présente souvent et ils sont très, très appréciés du public. On est vraiment très heureux de cette 25e saison et on espère la continuer avec... avec vous, avec les nouveaux venus, puis les adeptes de plus longue date.
Ah oui, et de toutes les façons, je vous dis merci vous et toute l'équipe. Et vous, comment on devient responsable d'inclusion et de diversité à Danse Danse?
Alors, c'est une longue histoire.
Oui.
En fait, c'est un titre que j'ai depuis peu de temps.
Oui.
Depuis septembre cette année.
Oui.
Mais en fait, les parcours inclusifs, comme je vous disais, la médiation culturelle, il y en a depuis longtemps. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, je me suis occupée rapidement des groupes scolaires et aussi d'un projet d'accessibilité qui s'appelait Amener un jeune à la danse.
Oui.
Et donc, naturellement, en fait, j'ai développé plusieurs projets de médiation culturelle, dont un parcours des jeunes créateurs, créatrices auxquels Ophèche Lecteur avait donné un atelier une année.
Oui.
Et on développe des projets, donc on en a un aussi avec en partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne. On accueille des nouvelles arrivants à nos spectacles pour leur faire découvrir la culture sur nos scènes. Oui. On a aussi un projet d'audiodescription depuis l'année passée. Donc, on a un spectacle qu'on offre en audiodescription pour les personnes aveugles et amblyopes.
Wow.
Avec des audiodescripteurs, audiodescriptrices live qui expriment, en fait, qui qui décrivent ce qui se passe sur scène via en fait des applications.
C'est vous qui leur fournissez ces appareils?
C'est en fait, c'est un projet vraiment formidable en partenariat avec Densité. Mmh. L'organisme Densité porte ce projet d'audiodescription. Et nous, on est en partenariat avec eux pour offrir finalement le spectacle sur lequel va être travaillé, offert l'audiodescription. C'est beaucoup de travail, mais c'est formidable. La même façon, on l'avait fait pour un chorégraphe québécois qui s'appelle Anan Nate. Et les commentaires, les impressions des personnes qui ont participé à la fin du spectacle étaient très, très touchantes. Donc, on remet ça cette année. On va dévoiler bientôt pour quel spectacle ça s'en vient.
Oui.
Et puis, c'est ça. On travaille pour, finalement, qu'est-ce que ça fait, responsable d'inclusion et accessibilité? Ben, je travaille à développer des projets pour... que les personnes qui sont éloignées de l'offre culturelle professionnelle puissent y avoir accès. Ah. Alors, c'est large. On travaille avec des publics ciblés, puis on travaille beaucoup aussi avec les artistes.
Bravo à vous et à toute l'équipe, vous qui nous permettez de découvrir des artistes d'ici et d'ailleurs. C'est tellement international. Dans ce sens, m'a fait découvrir de ces artistes. Il y a une qui est restée dans ma tête, la petite sud-africaine. Là. Oh, je sais, je son
nom. Dada Massilo.
Oh, Dada Massilo, ça c'est une de mes une de mes chorégraphes internationales quoi, en dehors du Québec. Non, elle me fascine toujours. Peu, je sais pas si vous, on l'aura l'année prochaine ou bien en 2024, mais je ne sais pas. Mais j'ai envie de la revoir chez vous, quoi, en tout cas.
Oui, j'en parlerai à mon directeur.
Ouais, non, c'est là. Non, elle est la première fois que je l'ai vue, c'est grâce à vous d'ailleurs que j'ai pu la voir.
Ah.
Oui. Elle est passée deux fois depuis que je suis ici et je me suis dit, waouh, c'est grâce à Danse que j'ai pu découvrir. Dans sa masse, j'ai lu des articles sur elle, des articles au niveau de l'Europe où elle tourne beaucoup là-bas d'ailleurs. Mais ici, c'est grâce à vous qu'on a pu découvrir cette grande chorégraphe. Petite. De taille, mais sur la scène, elle n'est pas petite, hein?
Elle rayonne.
Oui, elle rayonne, voilà. Alors, une dernière décoration concernant Chachetet, qui a été en 2018 décorée de l'ordre honorifique de l'Empire britannique pour ses services rendus à la danse. Wow! Oui.
J'ai vu ça, moi aussi.
Voilà, mais c'est un grand!
Oui, c'est gros. Je pense que ça donne bien la mesure de qui il est sur la scène internationale, en fait. Oui, c'est une grosse récompense pour quelqu'un pour une compagnie qui a beaucoup d'ampleur, en fait. Oui, c'est lui, c'est sa compagnie, en fait, c'est tout le travail de toutes ces personnes-là qu'on va voir dès demain.
C'est ça.
J'ai bien hâte.
Un dernier mot avant de vous laisser partir. Claire.
Oui.
Un dernier mot à nos auditeurs.
Moi.
Oui.
moi, mon dernier mot, ça serait danser.
Oui.
Danser dans votre salon, votre cuisine. Oui, aller voir la danse aussi. Aller voir la danse, c'est un peu, moi, je trouve, c'est un peu danser à l'intérieur de soi.
Oui.
Ah, c'est très poétique. Danser à l'intérieur et à l'extérieur.
Oui. Ouais. Merci beaucoup, Claire Olivier. Oliver, pardon, responsable inclusion et diversité chez Danse Danse. Merci beaucoup. Grâce à vous, on va découvrir ce grand chorégraphe avec ses 10 danseurs, ses 10 interprètes. C'est le 2, le 3, le 4, le 5 novembre à 20h au Théâtre Maisonneuve, Place des Arts. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup Claire Olivard, qui est responsable de l'inclusion et diversité chez Danse Danse, qui est venu nous parler de ce grand chorégraphe au Fesh Chester Company qui va se produire au Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, 2, 3, 4, 5 novembre à 20h. Très belle salle, 1000 et quelques personnes qui vont se retrouver là. Nouveauté littéraire dans le coin gauche, un artisan fermier dans le coin droit, un militant vegan. Voilà, c'est pas moi. Entre les deux, Mille et une questions âprement débattues, très critiques de l'industrie agroalimentaire, mais aussi très perplexes devant les actions posées par les militants de la cause animale. Dominique Lamontagne a voulu engager un dialogue avec un militant vegan afin d'approfondir les enjeux liés à l'alimentation et à l'avenir de notre agriculture. Voilà. Donc, sous forme d'échange épistolaire, d'ailleurs, il croise le fer avec Jean-François Dubé sur le véganisme autour de trois grands thèmes, l'éthique, la santé et l'environnement. Voilà. Comment évaluer les conséquences de nos choix alimentaires sur les écosystèmes, sur les animaux, sur les humains? Ouais, c'est ça. C'est... J'ai la photo ici, c'est « La chèvre et le chou ». C'est le titre du livre, Dominique Lamontagne et Jean-François Dubé. Ouais. C'est disponible, aujourd'hui c'est le premier, hein. Depuis aujourd'hui, en librairie. C'est tout nouveau, tout neuf. Ça sent encore le bois, le papier là. Ouais, il faut se le procurer, hein. Éco-société, la maison d'édition, la chèvre et le chou. Voilà. Voilà. Et puis, il y a une deuxième traverse, passage de la Pointe-Lévis. C'est Paul Bélanger, éditeur du Norrois. Oui, en librairie, depuis aujourd'hui aussi. Voilà, un homme traverse sa ville en France et laisse surgir le temps d'une promenade diverses images liées au lieu. Voilà, pour le narrateur, ce paysage, ce passage par Lévis est l'occasion de replonger dans un passé à la fois proche et lointain, condensé d'une existence qui se confronte au monde et tout encore à corps avec la mémoire du présent, le présent n'étant jamais qu'un lieu fugace et presque inexistant, d'où l'imaginaire et la réalité se partagent à part égale, se mêlant aux lettres d'autrefois, documents de l'histoire, locale et internationale. Les poèmes traversent un territoire autant physique que mémoriel, les versants d'une vie éclairée, singulièrement parmi les mêmes arpents de piège, l'enfant, les amours, la mort, les lectures, l'exil, les visages entrevus, les corps touchés par le désir qui font de l'individu autant des heures et des jours une conscience dans l'espace du poème. Voilà, édition du Norrois, Traverse. Merci à toi Mathieu, Tessier, à la régie, on se retrouve demain à la même heure.
Exactement.
Voilà. Merci à Myriam Larache qui est venue nous parler des vieilles séries québécoises qui vont être reprises par les plateformes numériques. Et merci à notre invité, voilà, Claire Oliver, qui est responsable inclusion et diversité chez Danse Danse, pour nous parler de cette compagnie du grand chorégraphe Ofès Schechter. C'est 2, 3, 4, 5 novembre au théâtre Maisonneuve. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve. Merci à Catherine Bourderon pour la recherche et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M et on termine en beauté avec King Sax. Ça se danse très bien, hein. Ne restez pas assis. Et sur ce, prenez soin de vos minutes et je vous dis ciao.